You were together with someone else?
With someone else, yeah. The Bulgarian, one of the Bulgarian. I was in the cell with that guy.
Okay. Yeah. Vladislav Petrov.
Yeah, so they moved me to another cell.
Okay.
I was shocked. I told the speaker, I said, well, why are you moving me from my, where I have someone to talk to? You know, and you're taking me to an isolated place where I'm going to be alone. And I haven't done anything wrong. He said, it's an order they gave him. So,
you know what I think?
Okay.
The policy in the prison was to put the nationalities together.
Okay.
I think what they did is to put the Bulgarian together with the Romanian, maybe, because they share a language.
Yeah, probably.
And you know, also, Papa Sacho, he also escaped after changing his cell. And that is how the two brothers from Suriname, they were killed.
I see.
So yeah. It's the same escape like you had.
Yeah, that makes sense.
And I think that is the reason that Papa Sacho cried during the memorial.
I see. That makes sense.
Wow. He cried a lot because he was so sorry for these young people.
Mm-hmm.
Yeah. You are one of those young people.
Yeah. Indeed.
How old are you now?
I'm 42.
Okay, so you were 22 of those days.
Yeah.
That was pretty young.
Yeah, pretty young indeed.
Now, I have to ask you,
mm-hmm.
can you tell us about your feelings, about your experience, about your healing?
Well, sometimes it's a tough one, to be honest, just like the others who don't want to talk about it.
Yeah.
Sometimes you don't want to talk, but then when you take a moment, you know, and then you reflect that and now, you know, you'll be thankful to Allah, you know, for being alive, you know.
Yeah.
And you have to appreciate life because, like I said earlier on, it's not because you're too blessed or you are blessed than all the others. You're just lucky. God is not ready for you yet. It's not your time, because at the end of the day, we'll all have to die at some point. There's mm-hmm. no escape to death, you know. So the thing is, I will say. So those things will come when you have those bad feelings, you know. But then when you think about that you survived it, then you also find a way to encourage yourself. You know, to find a way to breathe and say, "Oh, at least I'm still alive. I'm thankful."
Can you tell me how you find the way?
Well, I do some work over here with immigrants like me as well. So mm-hmm. you know, when you listen to their stories, you know, translating their language, you know, to people into English, like people from Sierra Leone or Guinea. Sometimes I even do people from Senegal or Gambia who speaks Fula, you know.
Okay. Yeah. And, you speak, you know, many languages, huh?
Listening to these stories, listening to their stories, listening to their stories, and you know, you learn a lot.
Sorry, Mohammed, the baby is making a lot of noise.
Yeah, she's gone. They've taken her away.
All right, thank you.
So,
okay.
You know, listening to some of these stories, you know, what they've gone through crossing the Mediterranean Sea to get to the UK, you know, the pains they go through, and then you think about yourself, how you suffered, you know, and you realize, you know what, if you think you struggle, there are worse people that have struggled worse in their life than you. So you always like human being, we're like in the middle, you know, like your fingers, they're never equal. So that's how I see life now, you know,
mm-hmm.
you're not equal. Some sufferings are worse than the others, you know, some suffer more, some suffer less. But at the end of the day, if you're alive, you're thankful to God.
I see.
Yeah.
But then you talk about the last 10 years that you did this work interpreting.
Yeah.
Is that how your healing started?
Yeah, that's how it started.
Okay, so
there's so many stories you hear, you know, personal stories.
Yeah.
It touches you so much. But then at the end, you realize that once they get to this country, they find a way to comfort themselves. They forget about all the struggle in the sea. Imagine being in a boat where you have like maybe 100 or 200 people and everyone dies except one or two or five people.
Yeah.
Can you imagine that trauma? We've had cases like that a lot. People crossing when everyone literally died on the boat, and you end up, you know, barely surviving when they were rescued on sea.
Yeah.
So that is very traumatic. It's like you have death. So if you see some of these people trying to, you know, live a life after those incidents, you will also have to learn to move on.
Yeah.
Yeah.
And you can help them?
Oh, yes, I can. Sometimes, you know, it's these things, you need to talk about them. When you talk about them, it will help a lot, you know. Because that's the problem some people have over here when they come. They don't have people to talk to.
Mm-hmm.
When these things happen, you need someone to talk about it. You need someone that you trust, like you know it's not going to let you down. Because sometimes people hold on to these informations because they're scared that when they say them, they will go and grasp them up to either the state or things that will affect their stay or their status of where they find themselves. So when they have confidence in you, that you that kind of person, they are willing to talk to you. You will let their stress come out. You will explain all their stress, and then talking about it will help a lot. You know.
Yeah, and that takes a lot of time, also.
Yeah, it takes a lot of time, though. Indeed.
Yeah.
It just doesn't happen overnight.
You know? Yeah. Great job, man. Great job. But you talk about the last 10 years, and before that, there were another 10 years.
Yeah.
Your time in the Netherlands.
Yeah.
Now, I really wonder, you know, I know a little bit about how the survivors have been treated after the fire.
Mm-hmm.
And every case is different, but I wonder how you felt after the fire, how they treat you.
It wasn't easy. It was hard, first of all, to get me a place to live where I can cook without the flame. You know, the gas cooking.
Mm-hmm.
Up to date, I'm allergic to that. I don't use gas cooking in my house.
Okay.
Yep. I don't want to see like flame.
The flame
just put me off completely.
So okay.
I cook on electric. Even where I live right now, it's electric that I cook on. I don't cook on gas.
You still do that?
I still do that, yes. I still do.
Yeah. It's a good habit. It's good for nature, too.
Yeah, cook on electric. So, you know, it was a bit of a struggle to get me a place to live where I cannot, where I can't cook with gas. So most of the houses at that time were gas. So the second thing was, like closing the door. What's the problem?
Mm.
I hate someone shutting the door on me.
I see.
Yeah. But all of that is it's much better now, to be honest.
Mm-hmm.
Yeah, it's much better now. Yeah.
And how about sleeping?
Oh, sleeping has gotten better than before. It was tough the first 10 years. I used to go for therapy for long. I went for therapy a lot for a very long time. To the psychologist. I went to the psychologist a lot.
Okay.
To the psychologist, yes. A very long
time. Helpful?
Yeah, it helped. It helped me a lot. Yeah.
Did they give you a lot of medicine?
Oh, yes, they did. They did. I was given a lot of medication. And GGD in Eindhoven, you know? GGZ, sorry. Yeah.
Okay.
I had some very good doctors there, Angela. I still can remember some of their names. They were very, very nice to me.
Okay.
Yeah, they were very nice. Yeah.
You are the only one living in Eindhoven now, the brother.
Yeah, the only one, indeed.
How did you end up there?
Well, because my procedure was around there before the whole thing started, and I knew people already. In Eindhoven, I had a Dutch family there. So with their influence, this is how they they helped me out to get a place in Eindhoven.
Okay.
Yeah. At that time, they were like 70 years old couple. They were working for they were helping Vluchtelingen in Kleel. I don't know if you know that place in Eindhoven.
Vluchtelingenwerk. Yeah, there's a group.
No.
Yeah.
Vluchtelingen in Kleel is the church. Is
okay.
During the Second World War, they helped a lot during the war, you know, and that's how they started the project in the church. So most of the sisters in the church were like 14, 15, 16 years old. And before I left Holland, they were like very, very old, Sister Beth. And most of them have died now anyway. But the project is still ongoing.
Yeah. And you were part of that.
Yeah, I was part of that. Even I started translating for them as well. When I got my place, and they used to call me when they get people who are struggling with the language, I used to go there and help out.
Yeah.
Or some of them, when they need like to acquire a passport from Sierra Leone, I used to advise as well.
Yeah. So you turn from a victim, you turned into a helper.
Yeah, into a helper. I think I was destined for that because I love it, you know. I love it. Mm-hmm. That's why my studies here is something related to that. International development with NGO management. That's what I did.
Nice.
So the reason being because of, you know, sometimes you can be very good in these relief jobs, but because you're not, you don't have a qualification, sometimes you find it hard to get into the mainstream frontline. You know,
it's all about papers. Yeah, I know.
It's all about papers. And sometimes the papers matters, but not really the paper matters that like than the person who is willing. Because I think doing this Vluchtelingen work is like this refugee thing. I think it's something that's in you, inherently has to be in you, you know.
Yeah.
It's not about the money. It's not about, because just like I say to doctors, you know, like during COVID, I always take the nurses and the doctors as example. During COVID, every one of us were running away from dying, right? We stayed home, but then the nurses and the doctors were still in the hospital. And most of them died as a result of trying to heal others, to cure others. So if it's for the money, they will just stay home and say, no, I don't want to die. But they love to do, they want to save life. Even if it costs them their whole life to save other people's life, so be it. You know. So for me, I think it has to be something within yourself that you're willing to do.
Right.
Yeah.
It's the drive that matters.
Yeah.
Yeah. And it's also the reward you get.
Yeah. The reward. Yeah. It's you can't measure it.
Like, sure.
Putting smile on people's faces, you know, it means a lot, you know.
Just feeling. Yeah.
Feeling is good. Feeling is really good.
Mm.
Yeah.
Now, this is a fundamental question
that is
raised by the death of Papa Sacco and organizing this manifestation. Okay. How can you turn the pain into power? And you just gave us an example of how you can manage to make a life again by extending your experience, connecting with others in the same shit, and trying to become human again together.
Yeah, yes.
That's what we're talking about.
It's very important. Yeah, it's very important.
Yeah, I feel you, man. Yeah. Okay. Thank you so much. I wonder if people who are listening have another question for you. Maybe Mustafa or Lamine or Michel. You can open your mic and ask a question to Mohamed or say something in reaction to what he said.
Also, I wanted to ask a question. Mohamed, my name is Lamine Cissé. I'm from Dakar, Senegal, and I used to work in arts, and the main question that I have is, since then, have you returned in Holland, in Netherlands to have, since then you live, what inspired you the most in life after the fire in Amsterdam.
Yeah, thank you so much, Mr. Lamine, for your question. Yeah, I've returned. I went once for the memorial. I think that was the first or the second anniversary. I did go. Isn't it, Joe? And what really inspired me as well, is the fact that we know, like Papa Zako, in blessed memory, last taking his life away. And we have people who are still standing there trying to keep this thing alive.
Yeah.
People like Joe and the entire team. Brother, even if I don't want to move, when I just think about the effort they're putting into this thing, it gives me goosebumps.
Yeah.
I feel like crying, you know?
Yeah.
Because imagine, Joe, I don't give a shit anymore. What has happened is happened, you know what I mean? And Papa Sako has gone. Some people are not interested to come. Some of the victims, some of the survivors, they don't want to come. But he still keep pushing. And as for me, I think that's more than enough inspiration. Honestly, I'm very much inspired by M2M and the work of Joe and the rest of the team.
Yeah.
Seriously, it's very inspiring. Yeah. I think it's lesson to us as human beings. You know, it's not always about profit. Sometimes money means nothing, you know?
Yeah.
Honestly, money means nothing. But when you believe in something, you stand for it, I think it's all you need,
you know,
to move you. You know,
yes, I.
Yeah.
Nice to meet you, bro. Nice to talk to you too, and share the experience that you have with us.
Yeah,
it's a pleasure.
Yeah, me too.
Thank you.
Okay, Lamine from Dakar meeting Mohammed in London. This is Radio Teranga. This is Dohandim Akdohandim. Mohammed is a real migrant, you know.
real.
You move along,
And let me tell you, let me tell you a brief history about my family roots.
Yeah, okay.
You know, my great-grandfather is from Senegal.
Oh.
Yes, my real last name is Sal. But, you know, because of migration, they born my granddad in Guinea, and my granddad traveled to Sierra Leone and had my dad there. So, so that's how, you know, full of people, how they migrate with business and the animals, you know?
So
that's how. So I have a Senegalese root.
your name sounds Senegalese, because there is also a lot of Senegalese who have the same name, Ba.
My granddad is Sal. So They were three that came to Guinea, three brothers. Those three Sal brothers, they settled in different parts of the country.
Oh,
my dad traveled across the border. That's how I got born in Sierra Leone. So we are all connected, you know.
We're all family. That's for sure. Thank you, bro, for the information and the experience for that you share with us, the sharing. You know, the radio is like open every Wednesday, and I mean, it's to share, to learn,
and talk about
the experience. What you said, thank you, bro.
No problem, bro. Thank you so much.
Thank you so much.
Hey, Mohammed, I want you to meet also Mustafa. Mustafa Sako is here, also in Dakar. Maybe on the roof of the Sako house.
Okay.
Mustafa
hello.
Is the son, of the Mustafa. Sons of Papa Sako.
Hello.
How are you?
Hello, Mohammed. Can you hear me?
Yeah, I can hear you.
Yeah, I'm fine, bro. Nice to meet you.
Yeah, me too, bro. Me too. How is Dakar?
Dakar is fine, man. It's just raining.
Okay.
Yeah. We have a nice time now.
Okay. Yeah, that's good.
But I hear every story, and you know, I feel very sad, and I say you sorry about everything.
Yeah.
Because it was so sad, and I have many discussion with my dad before he left. I want to ask you one question.
Yeah.
About in the prison. they treat you like a criminal or like a migrant?
Well, it's well, at that particular place in Schiphol, this was not like a proper prison. It was like it was like a holding cell, yeah. So so because it was at the airport, and it was meant for people to be placed there for temporarily, and maybe within a week or two, they arrange a flight and then they take people out.
Okay.
So when they caught me, that was my first question to them. I said, "Listen, I am not a criminal. Do not put me in prison here. Send me back to my country." That was my word when they arrested me when I went to stamp.
Definitely.
I said, "Do not put me in jail. I'm not a prison. I'm not a criminal. Send me back to my country." So I ended up in Schiphol. You know. So that's how that place was. It wasn't like a proper prison. It wasn't prison setup. It was a, how would I say, a temporary holding accommodation place. You know.
You know, it was a shit house. It was a shit house intended for people who were smuggling drugs in their stomach.
It was like a container, Karima.
They were supposed to be there for only 2 days to shit it out.
Yes.
And then be sent back to Suriname mostly.
Yes.
It was a shit house.
Yeah. It's sad, to be honest.
Yeah, but sorry about
everything. I say you sorry about you know, that sad story and that sad moment. You know, and God will bless you, inshallah, Muhammad.
Yeah, thank you very much.
Where do you from? Where do you from here in Africa?
Sierra Leone. Sierra Leone.
Hey, Bobo, you are my Bobo, man. You are my boy. Because I have many
friends
at Gambia.
Don't worry, I'm going to come to Senegal this year.
Yeah.
When I come, I would love to meet all of you guys, all of the people from the Radio Teranga. I would love to meet you all.
Inshallah, you are welcome. You are welcome, bro.
Yes. Me too. We'll be happy to see you guys.
Yeah. Thank you,
Mohammed.
Yes, thank you to meet you.
Yeah,
you tell us about your future, because I want to know before we end, what is your dream?
Well, my dream is to have my humanitarian how will I say, my dream, to be honest, I just want to work in the refugee industry, in the refugee field, you know, helping out people, because you know, I see our young youths are dying in the sea. And for some of them, I think they need some education, and then educate the politicians as well. Honestly, there is so much things that I want to do, but I don't know how to do them. I don't know how, if I'm ever going to be able to achieve them, to convince some of these youths. Honestly, it's sad when I see these young souls dying in the sea. I cry. I stopped watching the news during the time people started coming so much when they were dying in the sea. And because of Gaza, I stopped now for good. I don't watch the news anymore because it kills my heart slowly. So I stopped. You know, it's like a situation, you find yourself in a situation you want to help, but then you don't have power to help. So that's the situation I find myself. But the future looks very bright on my side. I'm looking forward to really expanding my network in this field.
Sure. Nice. I think we can continue for hours, but I think it's also time to end the program. We have only 1 hour.
Okay.
But I'm sure we'll meet soon again.
Okay, no problem.
Yeah.
Nice talking to you guys, and salamu alaikum.
Take care, bro.
Yeah, bro.
Thank you very much.
Okay. Bye now. Bye.
One love.
Yeah, me too.
You.
Yeah.
Okay.
Thank you very much, Muhammad.
Okay. Thank you. Hey, écoute.
Hello, Lamine Cissé.
Yeah, I'm the. Yeah,
on va changer de langue. On va parler français.
Respect, bro.
Okay. Parce que.
Okay.
Je regarde l'heure et on a encore le temps pour. pour jouer le discours sur partir fait par Lamine Dram l'autre jour après le programme. J'ai enregistré ça. Et c'était une bonne histoire aussi avec une participation au final de Mustapha.
Yeah.
Et c'est touchant, c'est en français et c'est pour cela qu'on va changer la langue. Je crois qu'il y a plein d'écouteurs à ce moment. Pauline et Martel aussi, ils écoutent. Et on va maintenant écouter si Michel a préparé pour jouer le discours de Lamine Dramé of Manifa sur le thème de partir. Allez-y, Michel. Yeah.
J'aimerais bien donner mon point de vue sur le sujet. Je salue tout le monde sur Radio Teranga. Teranga Bafou, j'aimerais bien donner mon point de vue sur le sujet, le fait de partir. Partir, c'est quelque chose qui est un sujet qui peut dire que un sujet universel. Voilà, pourquoi universel? Parce que partir, c'est très important. Et puis, il y a tellement d'étapes sur le fait de partir. Parce que le fait de partir, c'est préparer où partir. Préparer où tu vas. Parce que tu as un pensée. Je veux partir. Mais où? Tu t'es posé la question avant de te trouver sur le lieu. Et ce travail-là, c'est très important pour le partir. Parce que avant de partir, il faut savoir partir. Il faut savoir préparer pour partir. Il faut savoir partir encore. Et ça, parce que on est là dans la vie, je peux dire qu'en mission, normal qu'on doit partir. Parce qu'on n'est pas Internet. Et dans la vie aussi, tu vois un Sénégalais qui habite au fond de l'autre nord du monde, tu vois aussi un autre pays, parce que c'est les essences des pays sur l'humanisme, parce qu'il y a des essences qui amènent le fait de partir. Parce que aussi, partir... Moi aussi, j'avais t'habite, si tu fais la tradition, tu peux me dire que ne sois pas long, peut-être tu vas faire la tradition. Je peux continuer?
Oui, tu peux continuer.
Wow, parce que ici, en Afrique, je peux dire qu'il faut bien étudier le fait de partir. Parce que dans le monde, c'est une forme de théâtre. Parce que le monde, c'est une forme. Parce que si tu vis dans le monde, dans cette forme-là, parfois tu as envie. Tu as envie de quitter. Tu as envie de partir travailler. Tu as envie de partir faire du bien pour un autre. Tu as envie de voir tes amis. De partir voir tes amis. Il a envie de partir en Europe par tous les moyens. Et soit, il a envie, ça, le fait de envie de partir, cette envie-là, il faut, c'est très important, mais il faut qu'on mesure les étapes. Parce que chaque chose, il y a des étapes, il y a des préalables. Parce que avant de partir, c'est bien de partir, mais si on dit avant de partir, bon. Par exemple, j'ai envie de partir. J'ai dans mon mémoire envie de partir.
Yeah.
En ce moment-là, je dois calculer première étape où je dois partir. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et quel moyen que je vais rentrer dans ce pays ou bien aller en voyage, partir dans le milieu. Même avec ton ami, si tu dois partir, tu dois avoir un objectif de partir dans ce lieu. Parce qu'on ne part pas pour rien aussi. On part pour un objectif principal. Parce que bon, nous sommes en mission dans la vie. Il faut qu'on parte parce qu'on a des pieds, on a l'intelligence, on connaît ce qui se passe dans le monde et avec l'Internet et soi. Il y a une échange de valeurs que l'Internet nous a prouvé. Ça a donné envie aussi de partir. Et pour cela, il y a d'autres qui prennent le désert, il y a d'autres qui partent sur la mer. Il y a d'autres qui trouvent n'importe quel problème le fait de partir. Parce que partir, ce n'est pas quelque chose qui est interdit dans la vie, parce que c'est une chose universelle. C'est une chose universelle, parce qu'on vit avec. Mais avec notre esprit, on doit mesurer toujours si on a une question qu'on doit poser que je dois partir et il y a des préalables, il y a une préparation, il y a une préparation pour aller dans ce lieu. Parce que aussi on a l'esprit de pouvoir analyser sans arriver dans le lieu. On peut prendre des renseignements et ça. Mais partir, le fait de partir, c'est ça, c'est un peu comme l'immigration. Hein, parce que c'est un peu la même chose. Parce que l'immigration est universelle. Parce qu'on ne peut pas être un pays. Seuls les Hollandais vivent ensemble, seuls les Camerounais vivent ensemble, seuls les Sénégalais vivent ensemble. Parce que le monde n'est pas construit ainsi. Parce que le monde est construit sur l'essence, sur l'essence des valeurs, l'essence des humains. Est-ce que tu vois un Toubab qui vient au Sénégal? Et comme un Africain qui va au autre pays, on voit pour la première fois, il voit un Africain. Tu vois ce qui c'est une recherche. C'est de l'art vivant. Et c'est pour cela que partir, c'est très important. Mais partir aussi, on doit cultiver. Et le problème est que on cultive pas l'amour humain. C'est ça le monde. C'est ça notre problème dans le monde. C'est pour cela que le partir, c'est difficile. C'est pour cela qu'il y a tellement de visas, il y a tellement de sécurité sur le fait de partir. Parce que partir, ça doit être quelque chose qui est libéral. Libéral pour tous les mondes, pour tout le monde. Mais il faut sécuriser, c'est seulement. Parce que le monde nous a imposé l'échange. Mais le fait de partir, il y a beaucoup de façons de partir. Tu peux rester au Sénégal, partir dans un quartier, et soir, et faut aller voir tes parents et faire beaucoup de choses, mais le fait de partir, c'est une question qu'on doit poser, qu'on doit organiser, parce que c'est un mot, et ce mot a tellement de fond. Parce que pour partir, pour bâtir quelque chose, il faut savoir comment le faire avant de bâtir quelque chose, parce que c'est ça le problème. Parce que partir, il faut se poser la question et trouver les solutions avant de partir. Parce que à Nolof, on dit bëgg dem taxula dem. Parce que bëgg dem taxula dem, parce que ça veut dire que il y a l'esprit qui veut partir. Mais l'humain qui est sur place, c'est comme moi, je suis là, je dis je veux partir en Hollande. Il y a deux choses. Mon esprit est à l'Hollande, je veux partir à l'Hollande, mais je suis au Sénégal. Mais réellement, si je veux partir, je dois aussi me poser la question, quel moyen et comment, qu'est-ce que je vais faire là-bas, et beaucoup de choses que, mais ça doit être dans une but d'essence des valeurs, parce que le monde est fait d'une essence de valeurs. C'est une essence de valeurs, parce que moi, je viens avec mes valeurs, et aussi, tu as des valeurs que je vais prendre sur toi, et toi aussi, tu vas prendre mes valeurs. C'est pour cela, le fait de partir, c'est une essence de valeur humaine. C'est universel, c'est quelque chose qu'on doit respecter, qu'on doit bien voir les choses, parce que le fait de dire partir, c'est simple. Mais tamit le but, l'essentiel, la richesse qui est le fait de partir, c'est une richesse universelle. Parce que tu vois comme Yo est venu sur le terrain au Sénégal, il a amené beaucoup de richesses. Et soit il a amené beaucoup de richesses. Et avant de venir, il avait planifié le fait de partir. Je vais au Sénégal. Il avait planifié ça chez lui. Et il est venu aussi. Et il a des résultats. Mais aussi, il a une autre culture qu'il a vue, une autre essence de valeur qu'il a vue. À chaque fois, partir, c'est ça. À chaque fois, si tu pars dans une autre terre, tu cultives une autre richesse que tu n'avais pas. C'est pour cela le fait de voyager tôt, de sortir tôt, de partir tôt, ça te donne une richesse qu'on dit dans l'islam, il faut que outi xam xam ba xine. Parce que le fait de partir, il y a l'expérience, je peux dire que c'est le plus grand des recherches que un étudiant ou bien un écrivain. Parce que un voyageur, c'est quelqu'un qui part, c'est comme un pigeon. Mais il a les plus connaissances, c'est le plus grand connaisseur que tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pour cela partir, bon, je suis très content aussi. Sur le thème, je me regrette beaucoup, j'étais en retard. Mais je salue tous les auditeurs de Radio Teranga. Et aussi, je vous signale que notre page qui sont à Facebook, à YouTube, il faut le consulter, il faut ajouter aussi à tous les éditeurs. Parce que j'ai consulté notre YouTube, et il y a des pages qu'on n'a pas consultées. Il faut ajouter des plus. Il faut aimer aussi, il faut partager, et vraiment je suis content de communiquer avec le monde Teranga Radio, et je salue tout le monde, Tafa, Lamine, Yoy.
Wow.
Merci.
Digle.
Je vais vous donner une anecdote sur Papa Sakho, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il partait, lorsqu'il quittait le Sénégal.
Mm-hmm. C'est ça.
À l'aéroport, il m'a dit, papa, je vais partir. Hein. J'ai dit oui, je sais. Et il m'a dit, je sais pas quand est-ce que je vais revenir. J'ai dit oui. Mais il avait envisagé de revenir. Mais des fois, tu pars. Comme Yo l'a fait, il est venu. Il a envisagé de retourner. Et il a retourné. Des fois, l'homme propose et Dieu dispose. Lorsqu'on a des discussions avec mon père à l'aéroport, il m'a dit, t'as pas, moi, je pars. Hein. Mais je sais pas quand est-ce que je vais revenir. J'ai dit d'accord, que Dieu vous garde. Lorsqu'il est parti, il a fait des années là-bas, des fois on discute, des fois on parle, il me dit, Moustapha, tu sais, j'ai fait un petit voyage de Dakar à Hollande. Jusqu'à présent, je ne suis pas revenu, mais tu sais que on doit faire beaucoup de choses avant que je prépare encore dans le grand voyage.
Uh-huh.
J'ai dit quoi? Il m'a dit, il faut qu'on fait des choses avant que je pars. Il a dit encore, partir encore. Parce que il y a un autre voyage encore par rapport à des voyages de passeport et de visa. Il y a un autre voyage d'aller sans retour. Et on parlait souvent de cette voyage. Il me disait, Moustapha, un jour je vais partir, hein. Et ce sera le grand voyage, quoi. Le voyage d'aller sans retour. Et ce qui s'est passé, il est parti. Maintenant, tu vois, on prie pour que son âme repose en paix, mais on a toujours parlé sur le dernier voyage. Tu le veux ou pas, tu l'attends ou pas, ça va venir. Cet voyage est là. Si tu le programmes, ça va venir. Si tu ne l'as pas programmé, ça va venir. C'est un voyage que tout le monde va y passer.
Chacun a son tour, oui.
Chacun a son tour pour passer dans cette porte. T'as pas besoin de visa ni de passeport pour cette voyage.
Non.
Et on a beaucoup parlé sur cette grande voyage, jusqu'à il est parti. Mais c'est ça la vie. Ouais, comme quand on parle du voyage, on parle du sujet de partir. C'est pour cela que je vous ai amené cette anecdote pour te dire que il y a deux façons de voyager. Il y a un voyage que tu dois chercher un passeport, une visa, etc. Il y a un autre voyage qui est là. Ça ne demande pas de visa, ça ne demande pas de passeport. C'est un voyage naturel. Et c'est un cadeau. Cette voyage, c'est un cadeau de Dieu. Oui. Parce que si tu as une longue vie, jusqu'à avoir 100 ans, tu voudras voyager. Tu voudras
essayer de voyager.
Pressé de voyager parce que tu es fatigué dans ce monde. Voilà, tu aimerais vraiment partir rejoindre tes grands-parents, tes frères, tes amis qui sont passés, tu vois. C'est ça. Et on prie que pour tous qui sont passés dans cette porte-là, dans cette voyage aller sans retour-là, que Dieu leur pardonne et leur qu'ils se réveillent au paradis. C'est ça mon dernier mot. Et
c'est important, vraiment important.
Merci d'avoir participé sur l'émission Radio Teranga.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Dieu Rediev, merci beaucoup.
On se dit Dieu Rediev et bye bye.
Bafao.
Bye bye,
Bafao.
Bafao.
Nyofar. Nyofar.
Nyofar. Forever. Bajana. Yeah. Allez, bye. À la prochaine. À mercredi prochain.
Ciao.
Allez, ciao.
Voilà.
Ok. Pauline, allô.
Voilà. Oui. Le micro, okay. Il est coupé.
Parce qu'on a écouté une autre histoire, sans interruption, s'il vous plaît.
D'accord. Mais quand on parle de celle de Papa Sarro, moi, j'interromps tout.
Ok, allez-y.
Voilà. Papa Sarro, c'est mon Papa Sarro. C'est un grand artiste. Il a aidé beaucoup d'artistes à Dakar qui sont maintenant milliardaires. Papa Sarro, lui tout seul. Wallahi. Il donnait des conseils aux artistes. Il était là avec les artistes.
Waouh.
Voilà. C'est un grand. Le voyage qui te parlait, comment on dit ça? Il te parlait des paroles de grand. Médoul. Voilà. Papa Sarro. Tout le monde sur terre doit puiser sur Papa Sarro. C'est un grand homme.
Voilà. Merci. Merci. Ok. Beaucoup. Ok. Messieurs, dames, c'est l'heure pour terminer l'émission. Je vous offre le dernier mot.
Oui.
C'était le dernier mot de Pauline Gomis à Paris.
Ouais.
On a écouté bien l'histoire de Mohamed Ba à Londres. Et on a écouté l'histoire de Mustapha et le départ de son père.
Ouais,
peut-être, Lamine, tu veux dire encore quelque chose?
Moi, j'ai bien aimé l'émission déjà, la contribution de Mohamed Ba et d'avoir écouté aussi Lamine Dramé. C'est un plaisir. C'est aussi très enchantant d'écouter. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine à tout le monde.
Ok.
Merci. Take care of yourself.
Merci bien, Lamine. Michel, tu peux commencer avec le tune, le jingle final. Et je vais remercier tout le monde. Et quand tu veux écouter encore une fois ce qu'on a dit, tu peux le trouver demain sur YouTube, Radio Teranga.
Yes,
ça veut dire Radio Allez. Bienvenue.
Papao.
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 Allez,
à la semaine prochaine.
À la prochaine. Bye bye.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Bye. Oui, ok. Bafou.
Ah, yay, nuy na la, nuy na.
Bye. La, fay na la, fay na la. Nuy na len yen ñep.
Ok. Ok.
Ok. Pauline, Suzanne, yen ñep nuy na len.
Ok, c'est terminé. Merci beaucoup à tous. Je vais me promener avec Loulou dans le parc.
Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action, het radioprogramma. Voor de snop. Action, het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, cultuur, gezelligheid. Financials, geld maken, knuffelen en lekker nog eens je omdraaien in je bed. Maar niet heus hoor, er is natuurlijk alleen muziek. Muziek, muziek hier bij Pattepoe Action. 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 Brazilië, 1966. Vanderlei, Esta Noite... Eu sonhei.
Esta noite eu sonhei que o meu pai era um rei, que eu tinha o seu amor. Tinha o seu amor. Um castelo à beira-mar, seu azul sol a brilhar. Esta noite eu sonhei, oh, eu sonhei. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Esta noite eu sonhei que o meu pai era um rei, que você vivia assim, ah, jurando amor sem fim. Um jardim todinho em flor a enfeitar o nosso amor. Esta noite eu sonhei, oh, eu sonhei. De um rei não sou, oh, pensei ao acordar que eu vivo tão feliz. seu amor só para mim.
Black Flag, Fix Me, 1979, hun eerste EP'tje. Het was nog zonder Henry Rollins, want die woonde toen nog in New York. En het was met die andere Dez, heette deze geloof ik, of weet ik veel. Zoek het op. Black Flag is zo ongelooflijk goed gedocumenteerd. Dat weet je waarschijnlijk nu al uit je hoofd. Of anders zoek je het gewoon makkelijk op. Eenvoudig. Want overal te vinden. Fix Me. Daarvoor Esther Noichi, Eau Saunier. Vannacht heb ik gedroomd. 1966, Wanderlei. Wereldberoemd in Brazilië. Ze was een van de drie presentatoren van Jovem Guarda. De televisieprogramma waar beatmuziek op tv was. Razend populair samen met Erasmo Carlos en Roberto Carlos. Dit liedje is van... Het is een Frans, een Libanese Armenier in Frankrijk. Had daar een beatband. En die had het liedje... Si j'étais fils d'un roi. Als ik de zoon van een koning was. Wat hij allemaal niet kon. Ook een beetje in de richting. Ik heb gedroomd. Hè, want het is natuurlijk niet echt waar. En dat is wel een interessante figuur trouwens. Hè. Best kut muziek. Maar ook wel één track in ieder geval. Die ik hier ga draaien bij Patapou Action. Je kan heel snel dat gaan opzoeken dan. Maar ja, je hebt wel heel weinig info van mij gekregen. Maar die had wel waardevolle shit nog gemaakt. Verder heb ik er eigenlijk niks over te zeggen. Over dit nummer. Behalve het is een lekker opgewekt, vrolijk liedje van Wanderlei. Daar moeten we ook eens wat vaker. We hebben ook eerder van gehad hoor. Ze heeft een Portugese versie van Pushing Too Hard van The Seeds. Hebben we hier wel eens gedraaid. En nog meer. Hoe dan ook. Dus Wanderlei. Esther Noichi, Eau Saunier. Een cover van een Frans liedje. En zojuist Fix Me, Black Flag, hun eerste EP. 1979. Dan vlug gaan we naar... Wat muziek uit Rotterdam. Want dat moet natuurlijk. Freddy Scott en de Condors van Beathead 1. Ook een beetje afgezaagd. Maar wel heel mooie, prettige soort rock'n'roll. 1964. Kom maar hier. Freddy Scott en de Condors. Kom maar hier. 1964. Patapou Action. Oh wacht, ik zie alleen dat Black Flag. Fix Me. 1979 van hun eerste EP. Duurde maar 54 seconden. Dus nu komt hij nog een keer. One, two, three.
Someday, I feel no pain. Someday, I won't have a brain. I'll take away the part that hurts and let the rest remain. Fix me, fix my head. Fix me, please, I don't wanna be dead. Someday, well, I'll be rich. Someday, I won't listen to you, bitch. I'll turn up the volume and even your other sugar play just for you. Fix me, fix my head. Fix me, please, I don't wanna be dead. Someday, I feel no pain. Someday, I won't have a brain. I'll take away the part that hurts and let the rest be mad. Fix me, fix my head. Fix me, please, I don't wanna be dead. Just fix it.
leven feest en kom maar hier. En wees niet bedeesd en kom maar hier. Want de tent moet vol, want er is een orkest. Dat is best en kom maar hier. En want het feest wordt goed en kom maar hier. Met de meeste spoed en kom maar hier. En want de tent moet vol en de band.
En de band
speelt een rock and roll. Wauw, 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 wauw. En niet zeuren, het gaat gebeuren. Kom maar hier,
kom maar hier.
Het was niet echt gabber. Dat hoeft ook niet, want niks moet en alles mag in deze uitzending. Maar dit was dus Plague Called Paycheck. Een band, ja, hoe heet dat? Het heeft ook een soort blubble core iets. Is dit nou nog EDM? Nee, het is geen EDM. Of toch wel, want heeft het toch met house te maken in de verte? Of heeft het meer in de richting van noise? Dat nummer dat heette Burn Hollywood Burn. 2006 zei ik al, Plague Called Paycheck. Van het album Fat Breakcore Kids Dying From Spyware. Dat was nog wat in 2006. Fijn. Je hebt echt behoefte aan een plaat met fuzzgitaar. En je luistert naar Patapoe Action. En ik heb zo'n plaat gevonden. Erik en de Smoke Ponies. Erik met een Eric. Die is het waarschijnlijk maar wel met een K. En de Smoke Ponies uit de staat New York in Amerika. Wil je ook weten welke plaats in de staat New York? Dat is eigenlijk wel heel gedetailleerd. Terwijl ik van Van der Leyden weer helemaal niks kon uitleggen. Hempstead, New York. Dus is New York State. Dus mensen die dan een uitstapje doen naar New York stad. Kunnen ook nog naar de stad staat. En dan op zoek naar Hempstead, weet ik veel. Dit nummer dat heet I'll Give You More, 1967, en heeft lekker veel fuzz. Het had natuurlijk harder gemoeten, zoals altijd, maar in elke fase van het nummer hoor je wel iets van het geknars op de achtergrond en in de solo helemaal. Het is puur genieten hier bij Patapoe Action. I'll Give You More, Eric en de Smoke Ponies, 1967, Patapoe Action. MUZIEK